BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour. Il est 10h passé de 1 minute. C'est les experts. On est encore ensemble pour une petite demi-heure de débat et de controverse avec Laurent Wonski, directeur général d'Hervor, Eudox Denis, vice-président du think tank Propriété et Liberté, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'entreprise. Laurent, je crois que vous souhaitiez répondre à Eudox.
Non, je voulais compléter les propos de mes camarades. Parce que je crois qu'on a bien cerné l'une des causes principales qui était le manque de courage, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle du dogmatisme. Et nous, collectivement, en tant que démocratie, on a confié du pouvoir à des gens qui sont extrêmement dogmatiques et qui ne sont pas légitimes pour prendre certaines décisions. C'est-à-dire que beaucoup de sujets qu'on vient d'évoquer sont des sujets pratico-pratiques.
Oui.
Et donc on a des gens qui ont, on va dire, une espèce de culture générale et qui ont une doxa sur certains sujets. On va parler dans un instant de la taxe Zucman, c'est-à-dire en clair les deux corollaires que sont la justice fiscale et sociale. Okay, donc, on réfléchit pas forcément aux études d'impact, on réfléchit pas forcément à ce qui est bon pour le pays ou pas ce qui est bon pour le pays. C'est globalement, et c'est là où on rentre dans une zone très dangereuse, nous savons, nous, mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Donc, peu importe à la limite ce que vous pensez, on a un mandat politique et donc on va mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre certaines mesures. Donc si on devait, alors c'est pas encore l'heure de la lettre au Père Noël, mais je pense que là il y a des vraies réflexions à se poser sur au niveau du personnel politique. Et c'est pour ça que je pense, et je le fais modestement au titre de Croissance Plus, que aujourd'hui, vu l'étendue des problèmes, l'implication des acteurs de la société civile que nous sommes est inévitable.
Oui.
Inévitable.
Et réclamé par l'opinion publique. Il y a eu beaucoup de sondages parus ces derniers mois pour dire que les Français voulaient entendre les chefs d'entreprise.
Ça fait un moment.
S'exprimer dans le débat.
Je vais vous donner un exemple pratico-pratique. OK? Alors, on nous a dit depuis maintenant 5-6 ans, OK, les passoires thermiques. OK? Donc, il faut isoler les bâtiments parce qu'en hiver, ça consomme. On est d'accord. C'est marrant, il n'y en a pas un seul qui s'est dit OK, alors, en hiver, il fait froid, mais en été, il fait chaud. Donc, si on ne fait que isoler thermiquement les bâtiments, bien, en hiver, c'est très bien parce qu'il fait très chaud, sauf qu'en été, il fait encore plus chaud. Mmh. Bon, mais là, on n'est pas dans de la grande décision philosophique. Vous voyez, c'est du côté pratique. Et je dois dire que dans le débat depuis maintenant plusieurs années, on entend des gens qui ne sont absolument pas légitimes pour prendre certaines décisions, qui ont beaucoup d'opinions. Alors ça, on manque pas d'opinions. Hein. Si on avait un euro pour chaque opinion prononcée, on serait la première puissance mondiale, et qui, globalement, ne savent pas réfléchir de façon pratique et courageuse.
Bon, le dogmatisme, c'est aussi la marque de la taxe Zucman, Erwan Tison. Vous venez de commettre un rapport, présentez-le-nous. Alors, le mouvement Trop c'est trop.
Trop c'est trop, effectivement. Donc, le rapport a été rédigé par l'économiste Pierre Androuze, et moi j'ai eu le plaisir de faire partie du conseil scientifique avec des noms connus autour de ce plateau, Olivier Redoulès, Nathalie Janson, Erwan Lenoir, Antoine Lévy. Et en fait, on s'est posé la question depuis quelques mois maintenant sur est-ce que la taxe Zucman nous promet de répondre à une anomalie fiscale et de répondre à une anomalie budgétaire qui est le fait de se manquer, de rater beaucoup de ressources, notamment de pouvoir générer 25 milliards en tapant les plus riches. Et donc du coup, l'étude pilotée par Pierre Androuze, elle a regardé ça. Et en fait, premièrement, le diagnostic, il montre que, on parlait du diagnostic avant partagé, il montre qu'en fait, il y a une hypothèse de base qui est faussée, qui est de dire que les milliardaires paieraient moins que les autres. Déjà, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ils avaient tout un tas, notamment.
Ça, c'est une idée qui est très ancrée dans l'opinion.
Oui, parce que c'est facile. Parce que c'est facile et parce que ça plaît. Parce que c'est bien de se dire, bah oui, moi, je suis tout. Le ras-le-bol fiscal. En plus, vous imaginez, le ras-le-bol fiscal, il est très important et de plus important sur les classes moyennes. Si en plus, on vous dit, bah, vous avez le 0,001% qui y échappe. Mon Dieu, ça alimente un narratif qui fait qu'en fait,
Il y a eu des études très sérieuses qui l'ont prouvé. Hein. L'Institut des politiques publiques avait fait ce fameux graphique où on expliquait que l'impôt pour les 2000 plus riches, effectivement, les 1800 plus riches, passait de 40 à. Alors c'était 22%.
Ouais, 22. Mais en fait, ça dépend ce qu'on prend en compte. Et la question, le problème des travaux de Gabriel Zucman, c'est qu'il ne prend pas en compte à la fois la taxation, notamment la taxe foncière, et pour les classes qui vont justement ceux qui vont payer le moins d'impôts, alors que les milliardaires, ils vont pas du coup lui imputer, par exemple, l'impôt sur les sociétés, qui du coup est payé, mais ils vont lui imputer, par exemple, les dividendes. dividendes et les profits non distribués. Donc là-dessus, il y a un problème de certains pourraient dire de malhonnêteté, mais il y a un problème.
C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une vision malhonnête des choses? On veut être lucide dans cette émission.
C'est un problème de périmètre économique, mais oui, il y a quelque part une façon de tronquer un petit peu la réalité qui fausse un petit peu le débat initial. Et donc, quand on corrige cette distorsion-là, l'étude dit qu'en fait, on se retrouve, les milliardaires payent aujourd'hui déjà 2% de leur patrimoine en impôts. Donc, l'objectif voulu par la taxe Zucman est atteint. Et quand on réintroduit, en fait, dans leur revenu économique, on se rend compte qu'ils payent 26,2% de leur revenu économique en impôts, alors que quand vous êtes au seuil des 10%, on est environ à 24%. Donc, mécaniquement, l'étude, première conclusion, les milliardaires payent plus d'impôts en proportion et de leur patrimoine.
Donc
et de
la progressivité est respectée.
La progressivité.
La justice fiscale est rétablie. On entend.
La justice fiscale existe.
En général, elle est brandie pour augmenter les impôts, toujours, effectivement, et toujours des autres, si possible. Mais donc, elle existe.
Ensuite, deuxièmement, donc ça, c'est la première hypothèse de Zucman qui est réfutée par l'étude. Deuxième hypothèse, c'est sur les 25 milliards de rendement. Et bien, en fait, quand on applique justement cette correction, si on enlève l'IS qui est déjà payé par ces milliardaires-là, oui. En fait, la recette fiscale...
L'IS, l'impôt sur les sociétés.
La recette fiscale, elle tombe à 5,5 milliards. Donc déjà, on perd quasiment 4 fois le rendement espéré. Ensuite, quand vous regardez ces 5,5 milliards, le problème, c'est qu'il est structurellement fragile. Pourquoi ? Parce que l'assiette est très faible. Aujourd'hui, 45% de la taxe Zucman, elle repose sur 3 familles.
Ce chiffre est extraordinaire. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais entendu. On a déjà parlé de votre étude hier. Je me suis permis de citer ce chiffre-là. Quasiment la moitié de cette taxe repose sur 3 familles. Je ne suis pas sûr que ces familles-là restent dans le viseur fiscal de M. Zucman.
Surtout avec, Laurent l'a dit, avec en plus un pays frontalier où on mange très bien et les paysages sont très beaux qu'est l'Italie et qui notamment a fait une politique d'attractivité pour ces personnes-là qui oui. est ciblée à se demander du coup si ces trois familles-là ne partiront pas, ne franchiront pas les Alpes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que 80% des recettes est appliquée sur la variance du CAC 40. C'est-à-dire que vous avez la volonté de faire financer des hôpitaux, les retraites, des écoles sur quelque chose qui est extrêmement on va dire liquide et surtout qui est extrêmement variable. Ça veut dire quoi concrètement?
Ça peut être une forme de retraite par capitalisation indirecte.
Alors celle-là, je l'attendais. Mais je finis mon argument, je répondais sur la capitalisation. En fait, si vous aujourd'hui vous dites, grâce à la taxe Zucman, je vais embaucher X infirmières. Si, par exemple, en 2009, vous avez eu, par exemple, une baisse de... Ça aurait fait baisser les recettes de 40% de la taxe Zucman. Ça veut dire que vous les recrutez 100 000 infirmières en 2008. En 2009, vous dites à ces 100 000 infirmières-là, cette année, vous serez payé 40% de moins. Parce que ce que j'avais provisionné l'année dernière pour vous embaucher, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas stable dans le temps, donc du coup, je suis obligé de baisser. La capitalisation, c'est intéressant que vous en parliez, parce que la retraite par capitalisation, elle n'est pas instantanée. Vous avez des mécanismes qui font que vous allez accumuler tout au long de l'année et des sorties en sifflet pour en fait profiter tout simplement des intérêts composés, faire en sorte d'avoir le rendement sans avoir le risque sur le long terme. Et donc au final, la conclusion de l'étude, c'est quoi? C'est que la taxe Zucman, quand vous ajustez tout ça, on ajoute aussi par rapport à l'environnement académique, qu'est-ce qu'il nous dit sur la fuite des différents capitaux, on perdra à peu près 30% de la base fiscale de manière globale. Et donc du coup, la taxe Zucman promettait de rétablir de la progressivité et de récolter 25 milliards d'euros. Total, qu'est-ce que ça fait? Ça ne résout pas le problème d'égalité sociale. Et surtout, ça nous fait perdre entre 17 et 24 milliards d'euros tous les ans aux finances publiques. C'est-à-dire quasiment 0,8 points de PIB qui seraient détruits par la taxe Zucman tous les ans. On parlait avant du diagnostic, on parle souvent sur cette émission du manque d'études d'impact. Cette taxe Zucman-là, elle a été vue comme l'alpha et l'oméga de la politique fiscale par la moitié de la classe politique française, par beaucoup de journalistes également. Ça aurait été bien de se poser aussi... Alors, c'est sûr que la vérité, enfin, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Il faut du temps, justement, pour contredire toutes ces différentes... Mais c'est bien aussi d'avoir, dans la controverse du débat public, de se poser la question de quel impact a chacune des mesures qu'on veut mettre en avant à court, moyen et long terme, au-delà justement du simple satisfaction de bas instincts notamment qu'on peut avoir ou de l'envie qu'on peut avoir par rapport à d'autres catégories de revenus, et de se poser la question sur quel impact que va avoir la fiscalité sur la prospérité de mon pays, donc du coup sur la richesse à long terme.
Pourquoi avez-vous attendu presque un an pour publier cette étude, Erwan Tison? Pourquoi le timing maintenant, quand Gabriel Zucman a écrasé les plateaux après la sortie de François Bayrou au mois de septembre? On n'entendait parler que de lui.
Alors, Alors, déjà, c'est important.
C'est important. Limpide, votre démonstration.
C'est important de la sortir déjà en amont du débat budgétaire. Après cette étude-là, les conclusions sont fortes, mais vous avez beaucoup d'économistes individuellement, et des économistes de tous bords. Hein, je pense notamment même à Gilles Raveau, qui a été un des premiers
absolument
à désinguer la taxe Duckmann, alors que c'est pas...
Il était sur ce plateau hier même.
C'est pas un ultra-libéral. Vous avez eu énormément d'économistes qui avaient écrit sur la taxe Duckmann, qui avaient écrit attention sur les effets de bord. Donc du coup, cette étude-là, elle n'est pas nouvelle. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a... La question que je vous retourne quelque part, Raphaël, pourquoi avez-vous, de manière globale, pas vous, Raphaël Legendre, mais pourquoi est-ce que votre profession a donné beaucoup plus de temps de parole aux promoteurs de la taxe Duckmann qu'à ses détracteurs?
Parce qu'ils sont assez efficaces médiatiquement et que malheureusement, la culture économique chez les journalistes n'est pas toujours...
Et on recoupe avec le sujet précédent pour montrer que malheureusement, quand vous n'avez pas justement cette culture économique, ce socle de compréhension, vous ne pouvez pas avoir la responsabilité et le courage. Vous dites que les gens ne comprendront pas, que je n'aille pas dans ce sens-là.
Écoutez les experts pour avoir un regard lucide sur toutes ces questions. Une réaction, Laurent Wauquiez,
Je vais faire le lien entre le thème précédent et ce que vient d'expliquer Erwan. D'ailleurs, je recommande aux auditeurs de lire son étude. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique, c'est limpide.
Où est-ce qu'on la trouve, cette étude?
Alors, elle a été publiée dans l'Express, vous la trouvez dans Trop, c'est trop, et puis dans toute la presse économique et généraliste qui l'a reprise de manière générale.
Non. Vous avez tout à l'heure parlé de Churchill avec le sang et les larmes. Churchill a également dit « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées.
Voilà. »
Et vous avez une certaine intelligentsia qui n'a que deux prophètes, qui s'appellent Zucman et Piketty. Moi, je trouve que j'ai une formation économique et que j'ai lu le petit livre de poche de M. Piketty de 900 pages. Et je pense que, mon âme et conscience, que M. Piketty fait surtout beaucoup de politique et pas trop d'économique. Et donc, vous avez des gens qui disent « Mais non, c'est pas vrai, l'étude de monsieur est biaisée. » Donc, vous voyez, on est dans le déni de réalité et surtout, on essaye de faire passer un chat à travers un nid d'aiguille. Donc, on peut tordre la réalité, dire que les chiffres sont faux, que les TU des partisanes, que monsieur fait de la politique. On peut dire tout ça. Maintenant, au niveau de Zucman, un petit complément à cette excellente étude. Je veux dire que si on regarde ça avec le prisme de la consommation, vous prenez ces ultra-riches, mais même s'ils dépensaient leur argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, ils en ont tellement qu'ils ne pourraient pas dépenser cet argent et donc ils ne pourraient pas alimenter la machine de la consommation.
Eh oui.
Donc que font-ils avec cet argent? Ils investissent, ils prennent des risques, ils investissent de l'argent dans les start-up. Pourquoi? Parce que si cet argent s'envole en fumée, c'est pas la fin du monde pour eux. Et donc ils alimentent cette partie de l'économie qui est extrêmement risquée, extrêmement porteur d'avenir et qui va avoir... à l'évidence, dans certains cas, des retombées pour notre pays. Et donc, le choix qu'on nous propose, c'est de retirer cet argent et de le confier à l'État, qui, comme chacun sait, est excellent actionnaire, excellent visionnaire, et prend toutes les décisions que nous avons étalées pendant une grande partie de l'émission. C'est ça, le choix derrière la taxe Duckmann. Est-ce qu'on préfère confier cet argent à des gens qui, clairement, ont montré qu'il était incapable de le faire fructifier, ou est-ce qu'on le laisse dans la main de gens qui vont alimenter l'économie? Donc c'est pas juste, si vous voulez, le super yacht de monsieur trois petits points. C'est ça derrière, c'est un choix de société.
Socialisation versus privatisation, qui est le plus effectif? Je pense qu'on le voit le plus efficace, je pense qu'on le voit en ce moment même, quand ce sont les entreprises qui ouvrent leurs portes pour que les enfants viennent se rafraîchir.
Une réaction exemple. Je pense évidemment que c'est salutaire, mais je suis assez pessimiste quant aux résultats qu'on peut en tirer pour l'opinion publique. Oui, la taxe Duckmann, c'est une des solutions les plus populaires parmi l'électorat.
Ah bah, on vous explique qu'en taxant 1800 ménages, on va pouvoir régler tous les problèmes de la France.
Et à cet égard, elle a atteint un statut de thème politique qui me fait penser à la taxe 75% de François Hollande.
Et ça a fonctionné. Moi, ce qui est dingue, c'est que ça a fonctionné sur tous les partis politiques. Il y a eu des sondages qui avaient été faits, je ne sais plus si c'est par l'Institut Montaigne, mais je veux dire, à Renaissance, chez les macronistes, 80%, 82% y compris chez les LR, favorables à une taxe Zucman.
Et ça me fait penser en fait au ce statut de deuxième politique qui a acquis ce taxe Zucman, à la taxe sur 75% de François Hollande, et en fait qui était une vertu qui était purement idéologique, puisqu'on a vu ensuite, elle a duré seulement 2 ans, un rendement qui était dérisoire.
Il n'a jamais pu la mettre en place, le Conseil constitutionnel.
Un rendement dérisoire, et donc voilà. Donc
ça avait censuré.
Ce qui est important dans l'étude, c'est effectivement la fragilité les recettes et le fait que effectivement on ait cette concentration sur un très petit nombre de familles. Et puis moi je voudrais quand même remettre les ordres de grandeur en rapport avec ce qu'on a mentionné au début, c'est-à-dire que sur on a parlé de l'ampleur de l'effort de consolidation budgétaire, et même en ne prenant que les estimations des promoteurs de la taxe Zucman, il en faudrait 4 ou 5 pour arriver à la centaine de milliards qu'il faudrait atteindre. Et là, que nous dit en fait cette étude, c'est qu'en fait, il faudrait 20 taxes Zucman. Donc, je pense que c'est ça qui est important à marteler.
Il va nous falloir beaucoup de riches pour financer tout ça. On risque d'en manquer, effectivement. Allez, il est 10h passé de 16 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. On va passer au dernier sujet du jour qui va nous emmener vers la tech. Est-ce que la tech est le prochain moteur de l'inflation ? Bah oui, parce que le prix des puces flambe avec le développement de l'IA. On parle de je suis fatigué, j'oublie sans revenir. Pardon, mais mon camarade Anthony Morel, pardon, qui me parlait de Rampocalypse ce matin ou de Ramageddon. C'est la pénurie de puces qui fait exploser les prix de la tech. 100 à 700 euros de plus chez Apple, par exemple. Erwan, est-ce qu'il faut s'attendre à une explosion des prix dans la tech et pourquoi ça flambe comme ça?
Ça flambe pour une raison très simple, c'est l'offre et la demande. Vous avez une hausse de plus de 150% du prix des RAM aujourd'hui, cette année. Pourquoi? Parce que vous avez une demande qui est instantanée et des capacités de production qui mettent 3 à 4 ans à émerger, parce que construire une usine, malheureusement, aujourd'hui, ça ne se fait pas en quelques heures.
Laurent, c'est quelque chose.
Et ça se fait pas en quelques heures, notamment dans des pays qui sont extrêmement centralisés et très normalisés, comme la France. Voilà. Là, vous avez peut-être plus de facilité à les construire en Asie ou en Europe de l'Est. En France, ça met beaucoup plus de temps. C'est très intéressant comme sujet. Pourquoi? Parce que la tech est structurellement déflationniste. C'est grâce à la technologie, on le sait depuis Fourastier, que la technologie est le premier moteur de la baisse des prix. Et donc du coup, vous pouvez mécaniquement attendre. C'est comme ça qu'on augmente le pouvoir d'achat, c'est comme ça qu'on augmente le confort, c'est comme ça qu'on augmente le niveau de vie grâce au capitalisme depuis plus de 300 ans. C'est parce qu'en fait, la technologie, elle fait baisser les prix sur le long terme. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question très intéressante d'un point de vue économique, c'est est-ce que cette Rampocalypse, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'elle est conjoncturelle? Est-ce que c'est juste un problème de distance temporelle entre la demande qui est très forte de manière instantanée et les capacités de production qui ne se sont pas encore adaptées, auquel cas l'élasticité, ça va augmenter pendant 3-4 ans et puis après on va retrouver cette
situation. Le marché va se normaliser, quoi.
Voilà. Ou alors est-ce qu'on est dans un environnement où on va avoir des tensions sur toute la chaîne de valeur et pas uniquement sur les RAM, mais après sur les compétences, sur les matériaux critiques tels qu'on dit, sur l'énergie aussi, parce que la France, on a dit beaucoup de mal de ce qu'on fait en France. Il y a quelque chose qu'on a très bien fait, c'est notamment notre parc nucléaire. Oui. On le doit d'ailleurs à un homme, Monsieur Messmer, qui, en l'espace de quelques mois, a offert un avantage comparatif à la France pendant des décennies. Et là-dessus, je pense qu'on ne célèbre pas suffisamment le génie de cet homme-là, et on devrait le faire un peu plus. Et donc, du coup, la question, c'est ça, c'est cette temporalité. Est-ce que dans 3 ans, une fois qu'on aura les capacités de production qui se seront alignées, on aura de nouveau la déflation, auquel cas, on aura toutes les promesses que nous ont apportées le capitalisme et que doivent nous apporter cette 4e révolution industrielle, c'est-à-dire une prospérité partagée? Ou alors, est-ce qu'on va avoir une tension de plus en plus importante sur toute la chaîne de valeur et auquel cas on sera dans un environnement inflationniste? Moi, je penche plutôt pour la première. Je pense qu'on est uniquement sur du conjoncturel, parce qu'en plus on a une révolution qui est multidimensionnelle et vraiment très différente, très hétérogène dans les formes qu'elle a. Donc ce qui peut avoir des prix qui augmentent très fortement, on a encore de la déflation qui se fait de l'autre côté sur d'autres composants et sur d'autres thématiques. On a la chance en plus d'avoir un environnement international qui est extrêmement concurrentiel. La concurrence est aussi déflationniste sur le long terme. Donc je suis plutôt optimiste là-dessus. La question, c'est par contre, il faut qu'on puisse suivre en termes de capacité de production de ces RAM-là, mais aussi énergétique. Et là-dessus, c'est pour ça que la France a un cadre à jouer extraordinaire, c'est sur son énergie. Il faut maintenant qu'on puisse s'adapter à cet environnement-là. Et les EPR qu'on nous a promis, il faut y aller, quoi. Il faut des lois Notre-Dame pour les EPR, mais pas dans les 100 premiers jours de 2027. Il faut maintenant, il faut une loi d'exception en se disant, voilà où est-ce qu'on va les mettre, voilà les ingénieurs dont on a besoin, voilà la main d'œuvre dont on a besoin, et on les produit. Et on a quasiment un Jérôme Salomon tous les soirs qui vient et qui nous fait pierre par pierre où en sont justement la construction de ces EPR-là pour montrer justement aux gens que l'argent public est bien utilisé et que ça va justement vers la prospérité partagée dans le futur.
Bon, c'est cycle industriel, vous les connaissez bien, Laurent Wonski.
Rien de neuf sous le soleil. Je veux dire que, je crois que tout le monde le sait, ce qui est rare est cher. Que ça s'appelle pétrole, que ça s'appelle rame, et puis il y a l'histoire économique jalonnée. Vous voyez, je vais vous parler d'un sujet...
Et ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, oserais-je ajouter. Ça, c'est pour le service public.
Ça, c'est autre chose. Mais, vous voyez, par exemple, il y a un sujet dont on ne parle absolument pas, c'est le tungstène.
Oui.
Alors, beaucoup de gens connaissent le tungstène parce que c'est ce qui servait à faire les filaments dans les ampoules, puisque le tungstène, le point de fusion, c'est 3200 degrés. Ce que peu de gens savent, c'est que le tungstène est utilisé principalement dans les outils de coupe industrielle. C'est-à-dire que toutes les pièces que vous utilisez dans l'industrie sont usinées ou fraisées avec des outils qui contiennent du tungstène. Et vous allez me poser la question, mais qui détient le monopole de production du tungstène?
Car c'est un monopole.
Quasiment, 80%, c'est la Chine.
C'est la Chine.
Bon, donc là, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être un grand visionnaire pour se dire que si...
C'est donc ils tiennent les usines du monde dans leurs mains.
Si demain on coupe le robinet, on ne peut plus produire. Bon. Alors, la question aussi, et on va encore recouper avec les premiers thèmes abordés dans l'émission, si on considère que de toute façon, le privé, c'est le diable, et qu'on ne peut pas faire appel au privé pour résoudre ses problèmes, et que pour résoudre les problèmes de rame, il faut faire un comité Théodule avec des technocrates qui vont réfléchir à la norme, à l'incidence, à ceci, à cela, dans 10 ans, on y est encore, ça je vous le signe. Si on change de logiciel et qu'on considère que les acteurs privés ont leur voix au chapitre et sont plus légitimes que les autres pour résoudre ces problèmes qui sont des problèmes extrêmement concrets, c'est des problèmes industriels, là, effectivement, je partage l'optimisme d'Erwan. Mais alors, c'est vrai pour les puces, effectivement, c'est vrai pour la production d'électricité, il y a aussi un réseau derrière, parce qu'entre le consommateur et les centrales, il y a un réseau, c'est pareil pour les transports, etc., etc., etc. Et là, je pense qu'il y a une révolution copernicienne que beaucoup de gens dans notre pays doivent faire collectivement et penser que si le privé, qui est plus agile, qui n'a pas d'agenda politique, qui a un agenda économique, c'est normal, je veux dire, est mieux outillé pour résoudre ses problèmes, je suis très optimiste. Si on retombe dans les travers du passé et qu'on recrée une administration et un comité machin et un bidule, le train va nous passer sous le nez.
Bon.
Je pense à aller dans le même sens que mes camarades, hein. C'est-à-dire que la question c'est plutôt de laisser jouer ici la concurrence et l'innovation, et je suis plutôt, je suis pas convaincu que ce soit un véritable sujet de manière structurelle. Hein.
Quand on voit les commandes là de Micron par exemple qui a bloqué 100 milliards jusqu'en 2030, bon certains craignent hein, que ce soit quand même un peu structurel. Donc quel conseil on donne aux gens qui doivent acheter des consoles de jeux pour eux-mêmes ou pour leurs enfants là il faut attendre.
Elle est sur le rétro, c'est très bien les consoles.
On est parti.
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est là, on va rentrer dans une bataille de CAPEX. Vous avez des grandes entreprises, notamment étrangères, qui ont des capacités d'investissement. Quand vous regardez aux États-Unis, on est quasiment à 600 milliards d'euros par an qui sont capables de mobiliser
là-dedans. On est très loin. On a annoncé 650 millions.
Tout à fait. Et on a, parce que vous l'avez vu, on a annoncé aussi, le ministre de la Santé a annoncé 50 millions de rafraîchir nos EHPAD. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui sont pas vraiment les mêmes. Nous, on n'a pas les CAPEX en France. Certaines de nos entreprises les ont, mais pas dans ces dimensions-là. La question, c'est comment est-ce que nous, on peut quand même tirer notre épingle du jeu? C'est un peu la même question qu'avec l'IA. On a un modèle, on fait partie des 3 pays du monde qui a un modèle d'IA très performant, qui est un LLM, hein, grâce à Mistral. Mais de l'aveu même de Mistral, le Mistral ne sera pas le modèle unique. Par contre, ce qui est intéressant, donc, est-ce qu'on va se mettre sur la guerre des LLM en se disant bah tiens le but c'est d'avoir le meilleur LLM et derrière de cramer du cash et du souci on perd tout.
On indiquait sur ce plateau même que le chat était classé 54e modèle.
Oui mais il fait partie des trois. d'autres pays, notamment européens, n'ont pas leur modèle.
Ah oui.
Ou alors on fait la.
Donc
on fait, on abandonne cette bataille d'être le meilleur, mais par contre on se dit je vais irriguer partout. On gagne la bataille des usages. Si je ne peux pas gagner la bataille du hard tech, je gagne la bataille du low tech, en tout cas du software qui va aller avec. Et la question des investissements, c'est un peu la même. J'ai pas les capex, par contre c'est à moi de créer toute l'infrastructure qui est autour pour attirer ces capex. Et on a dit beaucoup de mal du politique ce matin. On peut dire aussi des choses un peu positives. Choose France, on peut dire beaucoup de critiques sur Choose France, mais le fait effectivement de jouer un petit peu la grandeur de la France là-dessus, ça peut permettre, ça a permis d'augmenter drastiquement les investissements directs étrangers en France et du coup nous dire aussi, on a un avantage comparatif qui se joue, venez investir chez nous là-dessus.
Et, donc, et ça a formidablement bien fonctionné pour la dernière édition. Hein.
Et on verra de quoi sera fait l'avenir politique, mais c'est des initiatives qui, en tout cas, devraient continuer. C'est malheureux d'en arriver là, de faire de la kainothérapie. Normalement, l'attractivité, elle devrait être inhérente, elle devrait être, comment dire, tacite. De devoir le faire de manière beaucoup plus explicite, c'est un peu malheureux. Ça montre aussi qu'elle n'est pas forcément aussi explicite, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui est très efficace. Donc, autant continuer là-dessus, mais on arrive à faire Choose France parce qu'on arrive aussi à avancer sur nos avantages comparatifs, qui sont le nucléaire, qui sont nos infrastructures.
Oui, mais donc, ça veut dire qu'on devient quoi? Le pompiste de l'IA international, quoi. La station d'essence à l'électricité verte, c'est ça mais l'avenir du modèle français, Laurent Monsky?
Oui, ce qui est très intéressant, bon, je suis loin d'être un spécialiste, mais par exemple, la Chine, au niveau des modèles IA, a choisi un positionnement qui est très particulier. Ils n'ont pas choisi de faire les modèles les plus performants, mais ils se positionnent sur les modèles ouverts. Donc, je pense que dans tous les marchés, et l'IA est un marché, je veux dire, la France a tout à fait sa place. La bonne nouvelle, si vous regardez par exemple à Singapour, ils ont construit, je veux dire, un environnement extrêmement prolifique sur, en clair, des marais, des moustiques. Oui. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans le jardin d'Éden et on est en train de couper tous les arbres. Bon. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui sont prêts à prendre des risques, qui ont les compétences, qui veulent, qui peuvent, qui savent. Et il y a, si vous voulez, des contre-pouvoirs destructeurs. Et je pense que là, on est arrivé, et c'est peut-être la conclusion de cette émission, là on arrive, si vous voulez, à l'échéance. Et comme vous l'avez très bien expliqué, je veux dire que là maintenant, on arrive au bout du bout du bout.
C'est donc un moment de vérité qu'on vit là.
C'est un moment de vérité.
Ce que vous nous dites, Laurent Monsky.
Et la question principale, c'est un choix de société. Est-ce qu'on continue à alimenter un État qui est obèse, qui se suffit à lui-même, qui est en train d'étouffer progressivement tout ce dont notre pays a besoin? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on a le courage de revoir peut-être les institutions, le modèle, parce que là, le temps s'est raccourci, comme dirait Einstein. Je veux dire que quand vous regardez l'IA, c'est pas tous les 5 ans qu'il y a une innovation de rupture, c'est quasiment tous les mois.
Et ça va très vite, effectivement, et on est déjà un peu en retard. Merci à tous les trois. Laurent Bronski, directeur général d'Hervor, Eudox Denis, vice-président du think tank Propriété et Liberté, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'Entreprise, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et sur toutes les plateformes de diffusion. Tout de suite, c'est BFM Entreprise, spéciale transmission animée par Sandra Gondouin. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne journée, au frais si possible. Allez voir dans les entreprises, que voulez-vous. C'est désormais les derniers îlots de fraîcheur, les refus de fraîcheur. Très bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve lundi, 9h30, comme d'habitude. Bye bye.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.